Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue sur De Vraie Vie, le podcast qui vous emmène vivre ailleurs. De Vraie Vie, ce sont des conversations, des parcours de femmes qui ont osé partir pour se réaliser, mais également des questionnements, des astuces pour pouvoir partir à l'étranger, et surtout une bonne dose de motivation pour vous dire que oui, c'est possible. Aujourd'hui, j'échange avec Pauline qui est passée d'ingénieure à pâtissière suite à un an en Nouvelle-Zélande. Avec Pauline, on a parlé de la désillusion quant à la recherche d'un travail, du manque de sens dans le travail, ce qui a conduit donc à son voyage d'un an seule en Nouvelle-Zélande et à ses expériences de woofing. Elle vous expliquera ce que c'est. Et on a également parlé de son retour, de son changement de carrière pour passer d'ingénieure à pâtissière. Voilà, je vous laisse découvrir l'épisode. Bonne écoute. Bonjour Pauline. Merci de participer à De Vraie Vie, de partager ton expérience pour inspirer les autres. Pauline, tu as osé choisir ta vie et pour preuve, donc après ton master en neurosciences, tu as travaillé au CNRS en tant qu'ingénieur et tu as décidé de tout quitter pour faire ce que tu aimes, donc un voyage et une formation en pâtisserie. Est-ce que c'était une décision qui a été difficile à prendre ?
Alors déjà, bonjour Anastasia et merci pour cette interview. Alors oui, effectivement, j'étais ingénieure au CNRS et j'avais le travail un petit peu que tout le monde attend, que tout le monde souhaite. Et puis en fait, je me suis rendu compte que j'étais pas heureuse dans ce travail et du coup, je suis partie faire un voyage un petit peu pas vraiment un coup de tête parce que c'était préparé, mais c'était quand même un peu fou de faire ça, et le choix n'a pas été difficile en fait, parce que c'était pas vraiment un choix, c'était vraiment un appel quoi. J'étais obligée par moi-même de devoir le faire, donc j'avais pas vraiment le choix en fait vis-à-vis de moi. Après bon, pour tout ce qui est de la partie pratique, voilà, de quitter son appartement, de devoir faire garder ses affaires, d'organiser le voyage, tout ça. Bon, après, c'est plus une partie pratique, mais ça se fait, quoi. C'est pas non plus surhumain à faire. Donc, voilà, ça se fait tranquillement. Et c'est comme pour le CAP pâtisserie derrière que j'ai fait, donc en revenant de mon voyage. Bah, c'était un choix dans la mesure où en fait j'avais envie de le faire depuis que j'avais 16-17 ans,
mais
pas eu l'occasion de le faire à ce moment-là. Et puis bah, quand je suis revenue de mon voyage, j'avais les idées un peu plus claires et je me suis dit que j'avais maintenant vraiment envie de faire ce que j'aimais. Et donc je me suis lancée dans le CAP pâtisserie que je viens d'avoir par ailleurs.
Eh bien, félicitations. Bon, on va revenir sur ça un peu plus en détail plus tard. Mais avant donc de poursuivre, j'aimerais qu'on revienne un peu en arrière sur plutôt ton enfance. Et donc, si tu devais décrire la Pauline à 8 ans, qu'est-ce que tu dirais ? Comment est-ce qu'elle est ? Est-ce qu'elle a des rêves ?
Alors, à 8 ans, j'étais encore fille unique. J'étais le stéréotype de la première de la classe, tu vois. Donc, la fille... Qui est super forte à l'école, qui lève toujours le doigt très très haut comme ça en se tenant les mains, voilà, qui adore faire des...
Qui a toutes les réponses.
Ouais, voilà, qui a toutes les réponses, qui adore les maths, qui adore, enfin, vraiment le stéréotype, qui a pas trop d'amis dans la cour non plus, quoi. Et voilà, moi je fais pas de vagues, je suis tranquille, voilà, je fais ce que disent mes parents, et puis... Et puis je me pose pas trop de questions, j'ai pas trop de rêves spécialement à ce moment-là. Je fais ma vie, je fais mes devoirs et puis c'est tout quoi.
Comme une petite fille de 8 ans.
Voilà.
Est-ce qu'il y avait des personnes dans ton entourage qui voyageaient et si oui, qu'est-ce que toi ça te faisait ? Est-ce que ça te faisait envie ?
Non, il y avait pas tellement de personnes qui voyageaient. Alors après. Je partais en vacances avec ma maman dans le sud de la France tous les ans. Mon père m'a emmenée à Londres à 10 ans. Mais sinon, non, il n'y avait pas spécialement de personnes que je connaissais qui voyageaient. Non.
D'accord. Donc si on revient un peu sur tes études, donc toi tu as fait un master en biologie, si je ne me trompe pas, donc spécialisé en neurosciences. Mais avant ça, donc t'attendais de faire médecine. Est-ce que tu dis que tes parents ont eu une forte influence sur ton parcours professionnel, sur tes choix d'études ?
Ouais. Alors, c'est vrai qu'en sortant du lycée, en fait, moi, je savais pas vraiment ce que je voulais faire. Je m'étais inscrite à plein de choses sur la liste des vœux. J'avais écrit fac de philosophie, j'avais écrit fac d'anglais parce que
D'accord.
j'ai toujours adoré l'anglais et aussi depuis toute petite, je voulais être prof d'anglais, en fait. Et puis ma mère, donc qui est médecin, m'a dit, oh, mais tu sais, t'as quand même des bonnes notes, tu devrais essayer médecine parce que bon, si tu fais de l'anglais, bah la science t'en auras plus après dans ton parcours et ça va te manquer, alors que si tu fais médecine, bah l'anglais tu pourras toujours le pratiquer et puis voilà, ton côté scientifique sera satisfait, on va dire.
D'accord.
Et puis tu auras toujours du boulot dans cette branche, et puis voilà, donc essaye médecine et puis tu verras bien. Et donc bah je me suis dit oui, après tout, c'est une bonne idée. Donc je suis montée à Lyon et j'ai essayé de passer en médecine, mais ça n'a pas été le cas.
Donc, tu as choisi la biologie.
Alors j'ai choisi, oui, disons que je suis allée dans la voie de garage de tous les recalés de médecine, c'est-à-dire la biologie à la doigt, pour ceux qui connaissent Lyon. Donc voilà, c'est vraiment le truc où on se retrouve tous, une fois qu'on a bien déprimé d'avoir raté médecine, on va tous là-bas. Voilà.
Et pourquoi est-ce que tu t'es pas dit à ce moment-là, tiens, finalement, je vais faire fac de d'anglais puisque c'est ce que tu voulais faire?
Bah, je t'avoue qu'au moment de s'inscrire, c'était donc juste après les résultats, j'étais plus là. J'étais vraiment dévastée par les résultats, parce que je m'étais imaginée toute ma vie en fait à partir de ça. Et du coup, quand j'ai vu les résultats et que j'avais pas l'examen, j'arrivais pas à y croire en fait. Et c'est quand tu dis le sol se dérobe sous tes pieds,
Ouais.
bah c'était exactement ça en fait. Je sentais plus mes jambes, mais j'ai senti le vide en dessous de moi. Je me suis dit, oh, mais qu'est-ce que je fais maintenant? Qu'est-ce qui m'arrive? Comment elle va être ma vie? C'est pas ça que j'ai prévu, quoi.
Parce que tu n'avais pas envisagé d'échouer, en fait.
Ouais, non, j'avais pas envisagé parce que toute ma vie, en fait, on m'avait dit, oh, mais de toute façon, toi, t'es une élève brillante, tu feras tout ce que tu veux dans ta vie, toutes les portes sont ouvertes pour toi, machin. Et en fait, et donc là, je me suis pris une grosse, grosse claque et je pense que j'étais vraiment pas bien, quoi. Sur le moment, bon, je savais pas trop ce que je faisais, donc voilà, c'est plus, je pense, mes parents qui m'ont inscrit à la fac de bio. Moi, je n'ai même pas de souvenir, en fait, de cette période-là, parce que j'étais vraiment complètement dans les vapes. Mais bon, je suis revenue après, mais c'est vrai que, ouais, pendant 6 mois, j'étais vraiment pas bien, quoi.
Parce que t'as tenté deux fois ça.
J'ai tenté 2 fois, ouais.
Après, bon, la fac de médecine, le nombre de personnes qui échouent.
Ouais. Bah ouais, la première année, je m'étais dit, ouais, non, c'est vrai que ça va être chaud. La deuxième année, j'étais à fond, mais je bossais tout le temps. J'étais vraiment. En fait, j'ai fait le maximum, quoi. Et je me suis dit, bah, si je fais mon maximum, je vais forcément y arriver, quoi. Parce que quand on veut, on peut. Parce que tu vois, toutes les phrases un peu comme ça. Et en fait, j'ai fait le max et je pouvais pas faire plus. Donc de toute façon, voilà, quoi. C'est comme ça.
Du coup, tu fais bio, donc tu fais ton parcours et donc tu réalises le dernier semestre de ton master, c'est à Newcastle. Est-ce que ça a eu une influence sur ton envie de voyage?
Ouais, en fait, c'est moi à la base qui voulais absolument faire mon semestre là-bas et j'ai cassé les pieds à tous les profs du secteur pour absolument partir là-bas.
Et pourquoi Newcastle en particulier?
Pourquoi Newcastle? Parce que j'adore l'Angleterre. Déjà, je sais pas, j'ai mon cœur qui est là-bas. C'est comme ça. J'adore l'Angleterre. Et puis parce qu'il y avait une fille en fait dans le cursus qui avait déjà était à Newcastle pour son semestre et donc qui avait gardé des contacts un peu là-bas et il y avait une espèce de partenariat entre les deux facs et donc c'était plus simple en fait, mais je connaissais pas le nord de l'Angleterre et je me suis dit que comme c'était vers l'Écosse et tout, ça devait être sympa, donc voilà, je suis partie là-bas pendant 7 mois.
Et du coup, à la fin, tu as ton master. Donc là, tu décides de revenir en France pour chercher du travail. Mais malheureusement, t'en trouves pas tout de suite. Donc c'est ça, tu cherches pendant 7 mois. Donc tu te dis, bon, je vais faire dans toute la France. Tu trouves pas forcément tout de suite. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là dans ta tête?
Ouais, je cherchais dans toute la France, mais surtout dans le monde entier, en fait. Je cherchais dans tous les pays anglo-saxons qui auraient bien voulu de moi.
D'accord.
Bah, à ce moment-là, en fait, je me dis, on m'a toujours dit, fais des études, t'auras un bon travail et tout, si tu travailles bien à l'école, t'auras tout ce que tu voudras. Et en fait, bah, t'arrives sur le marché de l'emploi et même avec un joli diplôme, on te dit bah vous avez pas d'expérience, vous savez pas faire grand chose, bon t'as jamais en fait l'expérience ou la qualification qu'il faut. Et toi, t'es plein d'enthousiasme, t'es tout content, t'es là, ouais, j'arrive sur le marché du travail, c'est génial, ça fait... Il y en a, ils ont commencé à bosser à 16 ans, moi, enfin, ça y est, je vais y aller, je vais commencer à faire mes preuves, à gagner un peu de sous, tu vois, t'as envie, et en fait, on te casse ton envie, on te casse ton engouement, mais c'est un truc incroyable de faire ça. Je trouve que, enfin, c'est pas qu'à moi que ça arrive, et tous les jeunes à qui on fait ça, mais c'est terrible, parce que casser l'enthousiasme, c'est vraiment, ça craint, quoi.
Ouais, t'es motivé, et puis d'un coup, on te dit, ben non, il vous faut déjà de l'expérience, alors que toi, tu sors juste des études, que tu recherches justement de l'expérience. Ouais, c'est terrible. Finalement, tu trouves un emploi quand même, du coup, au CNRS, donc c'est à Lyon, donc c'est pas loin de chez toi.
Moi qui cherchais du travail un peu partout dans le monde, finalement, retour à Lyon. Bon, pourquoi pas, parce que Lyon, quand même, j'y ai passé beaucoup de temps, et c'est une ville que j'aime bien, hein. C'est super bien, Lyon, donc j'étais pas déçue de rester en France, mais bon, ça va.
Tu t'es dit, c'est une opportunité, voilà. Je la prends.
Et puis surtout, c'est eux qui me prenaient, parce qu'au bout d'un moment, tu sais, c'est l'engrenage vicieux où tu fais un peu la carpette parce que t'es prêt à tout pour avoir un boulot au final, parce que t'as tellement la pression de la famille, de Pôle emploi, de toi-même, qu'au final, tu te mets un peu par terre et puis tu dis oui, dès qu'on te propose un truc, quoi. C'est triste, mais c'est comme ça. Et du coup, voilà, donc j'ai été embauchée à Lyon en CDD, donc voilà, j'ai repris mes petites affaires, j'ai redéménagé à Lyon.
Et tu me disais, donc c'est un CDD en tant qu'assistante ingénieure, donc de niveau Bac plus 2.
Voilà.
Alors que toi, t'as un Bac plus 5.
Au départ, ouais, j'ai été recrutée en tant que Bac plus 2. Bah, c'est comme ça. Eux, ils font ce qu'ils peuvent aussi parce que la recherche publique a très peu de moyens et que c'est pas facile non plus pour eux de recruter du personnel. Et donc voilà, il n'y a pas de gentil ou de méchant, c'est juste que c'est comme ça et que chacun fait ce qu'il peut, quoi.
D'accord. Et comment est-ce que tu as vécu cette expérience de travail ?
C'était à la fois très enrichissant parce que j'ai appris plein de choses. J'avais des collègues qui étaient formidables et enfin on s'est bien pas amusé parce que bon c'est le travail hein. Mais...
c'est important d'avoir une bonne ambiance.
Ouais, j'avais vraiment des collègues, des supérieurs qui étaient géniaux et donc ça m'a vraiment plu. Après le travail c'était intéressant parce que c'était des neurosciences et que ça m'a toujours intéressé, mais en fait on faisait des choses auxquelles je comprenais
D'accord.
pas tout, quoi.
Tu comprenais pas pourquoi vous faisiez ça?
Ouais, en fait c'était très très complexe. Et vraiment pour comprendre ce qu'on faisait, enfin c'était à l'échelle des neurones, donc on essayait de voir comment les neurones y communiquent entre eux, qu'est-ce qui fait que un tel groupe de neurones agit sur un autre et pas sur autre chose. Enfin et vraiment à ces niveaux-là, c'est quelque chose de très très complexe et pour comprendre c'est compliqué. Et du coup ouais, il y a des jours où je me disais mais en fait je fais quoi concrètement? Qu'est-ce que j'apporte au final à la recherche scientifique, quoi? Qu'est-ce que j'apporte même au final à la société? Parce que bon, c'est quand même un centre de recherche national. Et comme c'était de la recherche théorique fondamentale, c'était pas de la recherche appliquée comme de la recherche en médecine par exemple, bah du coup c'était difficile de voir ce que concrètement j'étais en train de faire et les applications qui allaient pouvoir être développées dans le futur, mais dans un futur très très lointain. Donc voilà, au bout d'un moment ça avait pas vraiment de sens pour moi ce que je faisais.
Mais c'était important pour toi donc d'avoir du sens dans ton travail?
Ouais. En fait je m'en suis rendu compte petit à petit, hein, c'est pas venu comme ça comme une épiphanie du jour au lendemain, quoi. Mais ouais, effectivement, avoir du sens à ce que tu fais au travail, c'est important, je pense. Et savoir pourquoi tu te lèves le matin, bah ça fait quand même une différence. Et du coup, ouais, il y avait, enfin, je savais que c'était qu'il fallait le faire, ce qu'on faisait, si tu veux, mais pour moi, personnellement, je voyais pas trop le sens, quoi.
D'accord. Ouais. Bon, tu restes dans ce travail, et puis on te propose un deuxième CDD, Mais en fait, dès le début, tu sais que tu vas pas continuer. Parce que toi, tu veux voyager. Et ça a été quoi, en fait, le déclic pour te lancer?
Oui, alors on m'a proposé un autre CDD et déjà là, je me disais que ce serait le dernier, quoi. Parce que, déjà parce que les évolutions de carrière dans le public, c'est pas foufou. Et puis, mais même si on m'avait proposé un CDI, en fait, ça aurait été pareil, je pense. Pour en revenir à qu'est-ce qui m'a fait décider de voyager, c'est que j'avais 25 ans et un jour, je me suis dit, oh là là, mais je peux pas faire ce métier-là toute ma vie. Je me voyais dans 40 ans et je me suis dit, ça m'a fait une crise d'angoisse, quoi. Je me suis dit, mais c'est pas possible. Je me voyais à 65 ans, d'avoir bossé toute ma vie là-dedans et d'être à la retraite et tout, ou même pas d'ailleurs, parce qu'à notre âge, je me disais, oh là là, mais je vais passer à côté de ma vie, c'est pas possible, quoi. Donc voilà, j'avais 25 ans, je savais pas ce que je voulais faire de ma vie, je savais pas vraiment ce que j'aimais non plus. Enfin, grosse remise en question, en fait. Ouais, je savais pas où je voulais aller, mais j'avais même pas une idée de ce que j'aimais, en fait. Et j'ai trouvé ça grave, en fait. J'ai trouvé qu'à mon âge, ne pas se connaître et ne pas savoir ce qu'on veut, c'était quand même grave, et que je voulais pas du tout me laisser porter par le courant, comme j'avais fait jusque-là, quoi, que c'était fini.
Et donc pour toi, le voyage, ça a été en fait un moyen de te chercher, de trouver ce que tu voulais faire.
Ouais, c'est... Donc parmi les choses que j'aimais et que je voulais, il y a qu'une seule chose qui est venue, c'est de voyager. Et comme j'ai toujours été attirée par les pays anglo-saxons et que bon, j'étais déjà allée en Angleterre, au Canada, et puis qu'en Australie pour moi il fait trop chaud, j'ai donc décidé de partir en Nouvelle-Zélande. Parce que c'est la seule chose qui me venait à l'esprit. J'avais rien d'autre. Donc je me suis dit, ben c'est ça, donc il faut que j'aille là-bas.
Puis un très beau pays quand même.
Et puis, voilà, apparemment, ça avait l'air très très joli, au bout du monde. Donc je me suis dit, comme ça, je serai tranquille, il n'y aura personne pour
C'est clair.
m'influencer, ça va être génial. Donc voilà.
C'est tellement vrai. Donc tu disais t'as 25 ans, tu pars en Nouvelle-Zélande, c'est dans le cadre d'un PVT d'un an. Comment est-ce que t'as organisé cette première expérience qui était donc très loin de chez toi?
Alors en fait, j'ai pris mon billet d'avion un an avant de partir.
Normal.
Et j'étais une psychopathe de
Un
l'organisation.
petit peu.
Et ouais, carrément. Et je comptais les jours comme ça sur mon calendrier. À chaque fois que j'allais au travail, je
Génial.
cochais les trucs et tout. Ouais, enfin génial. Un an, ça fait long à
Ouais.
attendre quand même.
Ouais, mais c'est une motivation pour aller au travail. Allez.
Ah bah là, j'en avais clairement besoin, hein, franchement. Mais du coup, j'ai tout planifié. Donc, je me suis renseignée sur le woofing. Donc, pour ceux qui savent pas ce que c'est du travail volontaire dans des fermes, en général, où tu es hébergé et nourri, en échange de à peu près 5 heures de travail par jour. Donc, je me suis renseignée là-dessus. J'ai commencé à chercher des hôtes qui, d'ailleurs, me disaient tous: Non, mais attends, tu nous demandes des trucs pour un an à l'avance. Non, reviens 15 jours à l'avance, mais pas plus, quoi.
J'avoue.
Donc voilà.
C'est ça que tu t'es rendu compte quand même que fallait organiser un petit peu moins peut-être.
Oui. Et puis, du coup, en allant en Nouvelle-Zélande, j'ai pris un billet qui me faisait faire aussi un stop à Tokyo, en Australie, à Singapour. Donc j'ai commencé en fait à programmer mon voyage pour Tokyo. Donc j'ai réservé les auberges, tout ça. J'ai bien regardé tout ce que j'allais visiter. Genre chaque jour, tu sais, tu te fais un planning. Je vais faire tel quartier, tel resto, tel truc. Donc voilà. Et puis j'ai prévu, en arrivant en Nouvelle-Zélande, j'avais un mois de woofing prévu chez une dame qui faisait de la permaculture.
D'accord, génial.
Et donc après, bon, j'avais prévu quelques auberges de jeunesse et tout, mais en gros, quand je suis arrivée en Nouvelle-Zélande, j'avais un mois et demi de prévu dans le pays, et après, c'était un peu plus... Mais en même temps, je pouvais pas tellement organiser plus que ça, parce que bon, après, c'est un peu compliqué, quoi, quand tu sais pas ce que tu vas faire, où tu vas être.
Mais c'est bien, ça te permet déjà quand tu arrives dans le pays d'avoir, voilà, au moins là je suis sûre que pendant un mois et demi j'ai quelque chose.
Voilà, organiser, moi, ça me calme, en fait.
Je vois ce que tu veux dire. Et qu'est-ce que tes proches t'ont dit quand t'as dit que t'allais partir un an en Nouvelle-Zélande comme ça?
Ils ont rigolé.
D'accord.
Ils étaient, bah, clairement, ils m'ont pas cru. Hein. La première fois que je l'ai dit, ils m'ont vraiment pas cru. Après, bon, bah, ils sont détendus. Bon, à chaque fois, enfin, genre, tous les mois à peu près, il me demandait, mais ta Nouvelle-Zélande là, ça en est où? Puis je disais, non, mais je pars toujours, j'ai mon billet, voilà. Et puis au fur et à mesure, il rigolait de moins en moins, bizarrement. Et ouais, j'ai même eu des trucs du genre, oh, mais de toute façon, toi t'es pas une aventurière, arrête, n'importe quoi, t'es pas capable d'aller au bout du monde comme ça.
C'est terrible de dire ça.
Bah ouais, mais bon, mais du coup, ça m'a conforté dans l'idée qu'il fallait que je le fasse et qu'en fait, ouais, il y avait des critiques, mais c'est pas ça qui allait m'arrêter, quoi.
Et du coup, tu parlais de woofing. Est-ce que t'as une expérience en particulier qui t'a marqué?
Ouais, en bien, je précise. J'étais chez un couple de fermiers qui avait, je sais plus, 900 ou 1000 vaches. Alors pour chez nous, ça fait beaucoup. Mais là-bas, ils avaient tellement de terrain parce que c'est tellement grand que en fait, les vaches, elles avaient de quoi pâturer pendant vraiment loin et longtemps. Donc voilà. Et en fait, c'était la saison du vélage.
D'accord.
La saison des petits veaux. Et ils m'ont embauché, enfin embauché, pris en woofing pendant... Au départ, c'était un mois, pour aller chercher les petits veaux quand ils étaient nés et les ramener dans une étable et ensuite les nourrir. Donc bah, je les nourrissais au biberon pour les veaux.
Génial.
C'est vraiment trop trop chou, quoi. Et au début, ils savent pas téter, donc ils font n'importe quoi, ils prennent la tétine dans la bouche, ils savent même pas quoi faire et tout. Donc tu les vois faire ça, t'es mort de rire, quoi. Et du coup, au bout de quelques jours, ils prennent le truc, et alors après, ils se battent avec les autres pour pouvoir avoir la tétine et tout, ils te mettent des gros coups de tête. C'est parce que les gamins, ils font déjà 50 kilos quand ils naissent, hein. Donc, ils ont des dents et tout, hein, c'est pas des petits bébés. Et du coup, c'est trop chou parce que tu les vois évoluer de petits nouveau-nés à veaux qui a un mois et puis qui bastonnent les autres et tout, qui courent dans les champs, et ils sautent comme des cabris et tout, ils sont trop choux à voir. Et du coup, je me suis tellement plu là-bas. Et puis aussi avec le couple de fermiers qui avait mon âge, en fait, et qui étaient... C'était des super-héros, quoi. Ils bossaient tout le temps, ils étaient super sympas, ils étaient au top. Et du coup, je suis restée 2 mois et demi, au final.
Ah oui, quand même.
J'avais plus du tout envie de partir, et c'était génial, quoi. Je leur cuisinais des petits plats le soir quand ils rentraient, parce qu'ils étaient crevés et tout.
Tu m'étonnes.
Et c'était vraiment, vraiment le top, quoi. Ces petits veaux, mais vraiment, j'ai adoré ce woofing. On faisait des balades en quad et tout. C'était génial.
Oh là. Et t'avais aucune expérience en ferme, toi, avant?
Non, j'avais aucune expérience ni en permaculture, ni en... Ouais, en ferme, en quoi que ce soit, hein. J'étais pas du tout qualifiée, mais en fait, dans le woofing, ils te font faire des choses que tout le monde, plus ou moins, pourrait faire, quoi.
D'accord. Ils t'expliquent rapidement, et puis c'est parti, quoi.
Voilà, ils t'expliquent en gros ce qu'il faut faire. Après, ils voient bien si ça t'intéresse, si t'es apte à le faire ou pas. Sinon, ils te mettent sur autre chose, et puis voilà.
Super. Qu'est-ce que tu dirais que ce voyage t'a apporté?
Grande question. Ce voyage m'a apporté des tas de choses. En fait, ça m'a apporté une direction dans la vie. En fait, ouais, j'ai rencontré plein de gens qui m'ont tous plus ou moins guidée à leur façon pour que, au final, je m'écoute moi et que je suive mes intuitions à moi et que je fasse ce qu'il fallait que je fasse pour ma vie à moi, sans écouter. Bah, tous les commentaires extérieurs, et en me faisant confiance à moi. Et du coup, c'est aussi pour ça qu'après j'ai fait mon CAP pâtisserie et que j'ai pas voulu retourner dans mon ancien travail, tout ça, parce que c'était pas vraiment moi, au fond. Et voilà, donc
ça, c'est le voyage qui t'a aidé à prendre conscience de ça.
Voilà, le voyage, ça m'a fait prendre conscience de tout ça. Et puis ça m'a aussi montré que j'étais capable de me débrouiller pendant un an toute seule au bout du monde, dans un pays dont la langue n'était pas la mienne forcément, même si j'adore l'anglais, mais des fois en situation un peu particulière, quand t'as du jargon technique parce que t'as des embrouilles avec avec certains trucs, bah t'es quand même paniqué, tu vois, même si tu parles bien.
Puis l'accent néo-zélandais est pas mal aussi.
Et l'accent néo-zélandais est particulier.
Pour ceux qui ne l'auraient jamais entendu, c'est particulier. Je vous conseille d'aller sur YouTube et d'écouter ça. Ouais, c'est particulier, mais bon, rassurez-vous, c'est quand
On
même
s'est fait.
compréhensible. Voilà, mais donc ça m'a appris que je pouvais me débrouiller toute seule. J'ai aussi acheté une voiture en Nouvelle-Zélande alors que je l'avais jamais fait en France, et voilà, ça s'est très bien
Super.
passé. J'ai fait des woofings, moi qui étais très solitaire et qui j'aime pas vivre en communauté. Par exemple, quand j'étais à Lyon en appart, j'ai jamais été en coloc. J'ai horreur de
D'accord.
ça, vraiment. Et là, bah, j'étais en woofing, j'étais en auberge de jeunesse et tout. Et ça, c'était un de mes petits défis personnels, en fait, c'était d'essayer d'arriver plus ou moins à vivre en communauté. Et en fait, je me rends compte que maintenant, ça me manque.
Ah ouais.
J'ai envie de partir en voyage maintenant pour être dans une auberge de jeunesse, pour voir des gens, quoi.
Est-ce que c'est parce que t'aimais pas ça, ou est-ce que c'est plutôt l'image que tu te faisais d'habiter avec des gens?
Non, c'est vraiment que j'aime pas ça. Je suis une grande solitaire, et tu peux me laisser une semaine à la maison toute seule, moi je vais sauter de joie. Il y en a qui déprimeraient, mais moi non.
Ah, moi aussi je suis comme ça, j'aime bien le petit moment de solitude.
Ah ouais, moi j'adore. Et vivre avec les autres, pour moi, c'est plus une contrainte qu'autre chose. Avant, j'étais une vraie sauvage, et maintenant je suis toujours sauvage, mais je peux m'attendrir au contact de mon prochain.
C'est beau. Et du coup, est-ce que tu aurais des conseils à donner donc aux filles qui osent pas se lancer, qui ont envie de partir en voyage mais qui se disent bon, c'est quand même un peu loin, j'ai peur, je vais être toute seule.
Bah déjà, faut s'écouter soi. Donc il y en a pour qui le voyage seul, c'est pas une évidence. Donc ceux qui le sentent pas, faites-le pas, vous forcez pas à faire ça, parce qu'il y en a plein qui le font. Et puis bah après, ouais, un pays au bout du monde, en fait, quand tu y es, tu te rends compte que c'est pas si grand que ça. Enfin, que en 24 heures d'avion, t'es n'importe où, en fait, dans le monde. Donc c'est pas si fou, quoi. Après, si vraiment c'est quelque chose que vous voulez faire, ça fait longtemps que vous y réfléchissez, mais bah, il y a encore ce petit blocage de j'ai peur, mes amis me disent qu'il faut pas le faire, ma famille a pas confiance, tout ça. Bon, ben bah, après, c'est à vous vraiment de montrer votre détermination, et puis en fait d'arrêter d'écouter ceux qui sont autour de vous, quoi. Ça peut sembler un peu compliqué, avec la
C'est très
famille,
difficile, ouais, parfois.
avec les amis. Bon, bah ça c'est en fait le petit défi que vous aurez à relever. Et une fois que ce sera fait et que vous aurez compris que bah, ce qui compte, c'est ce que votre petite voix intérieure à vous vous dit, bah là, non seulement vous serez capable de voyager, mais de beaucoup plus. Et puis vous comprendrez que vous pouvez compter sur vous-même, et que c'est la seule chose à faire.
Tout à fait. C'est vrai que souvent, l'entourage projette, chacun projette sa propre peur sur l'autre. Voilà, mais du coup, faut réussir à passer au-delà de ça. Et c'est pas forcément évident, mais une fois que c'est fait, effectivement, comme tu dis, on se rend compte que rien n'est impossible, entre guillemets, et qu'on est capable de beaucoup plus que ce qu'on pense, en tout cas.
Oui, c'est sûr. Ouais. Et puis la peur, au final, la peur de l'autre, enfin, c'est un peu compliqué, je trouve, parce que t'as des gens qui ont peur en permanence de certaines choses, et du coup, ça va leur arriver, forcément. Des gens qui ont peur des autres, voilà, qui disent ah, faut pas faire confiance aux inconnus, des trucs comme ça, bah au final ça va leur arriver, et ça va renforcer du coup ce qu'ils croient. Et d'autres gens qui sont ouverts et qui se disent que les gens sont sympas, qui sont généreux si on leur demande quelque chose, voilà, bah en fait les gens vont être comme ça du coup avec cette personne. Et en fait, il faut pas croire en la peur. Alors c'est dur parfois, mais il faut croire dans la bonté de l'humanité. Alors c'est pas tous les jours facile.
Et quand tu voyages, tu te rends compte en fait que l'image qu'on te renvoie des autres pays à la télé, par exemple, c'est toujours le côté négatif, mais que finalement les gens, enfin 95% des gens sont sont très gentils, quoi. Ils sont très bons.
En fait, faut juste leur parler. Et si tu leur parles en faisant un sourire et en étant poli, bah, il y a beaucoup de chances pour que les gens soient cool avec toi, en fait. Voilà, ça sert à rien d'avoir peur. Parce que ta mamie t'a dit qu'il y avait une guérilla au Nicaragua. Bon, bah, d'accord, mais ça n'empêche pas que les gens là-bas, majoritairement, sont, je pense, très sympas.
C'est oui, pas... il faut toujours faire attention après.
Voilà, il faut faire attention.
Alors... S'il y a une guerre, on évite d'y aller. Voilà, si vraiment tu veux y aller,
d'accord.
Tu te renseignes.
Mais bon, c'est... Même dans des situations... un peu compliqué en fait, t'as toujours des gens qui sont prêts à t'aider. Si tu sais pas où dormir, bah regarde les émissions nues et culottées, quoi. Les mecs ils trouvent tout le temps des gens géniaux pour les aider, et les gens sont très contents de les aider, en fait. Ils forcent personne, quoi. C'est donc voilà, il faut essayer de pas avoir peur, même si t'es une fille, même si t'es toute seule. Il faut avoir confiance en toi, faut avoir confiance dans les gens, te dire qu'ils sont là pour t'aider, qu'ils sont sympas, et puis suivre ton intuition. Donc ouais, ça veut dire, bah, quand il y a des situations un peu dangereuses que tu le sens pas, bah t'y vas pas, tu forces pas non plus, tu forces pas non plus le destin en te disant je suis une warrior, il peut rien m'arriver.
Faut apprendre à s'écouter.
Voilà, oui. Mais tu ce que tu sens dans tes tripes, ou je sais pas où ailleurs, et bah faut l'écouter, et puis ça va bien se passer, quoi.
Exactement. Donc si on revient un peu donc sur ton voyage, finalement, donc au bout d'un an, tu rentres en France, et puis là tu décides donc de t'inscrire en CAP pâtisserie. Raconte-nous un petit peu comment ça s'est passé.
Alors, à mon retour, déjà je tiens à préciser que pour la première fois de ma vie, à mon retour, j'étais pas déprimée. Parce que d'habitude, quand je voyage et que je rentre, c'est une horreur, je pleure pendant des jours, il faut pas venir me parler parce que j'ai plus d'énergie, j'ai plus rien. Et là non, là j'étais... Là, j'étais bien, j'étais contente de rentrer après un an de voyage, j'avais fait le tour de ce que j'avais à faire, et j'étais contente de rentrer, j'étais bien. Et, ensuite, donc, j'avais déjà commencé à regarder depuis la Nouvelle-Zélande les programmes de CAP pâtisserie dans ma région, et quand je suis revenue, je suis allée aux portes ouvertes, tout ça, mais j'ai rien dit à personne. Donc, je me suis inscrite, enfin, j'ai fait les démarches avec Pôle emploi, tout ça, et puis, et en fait, je l'ai annoncé à ma famille une fois que c'était fait, que l'inscription était faite, parce que je voulais pas qu'ils viennent, pas m'influencer, mais je voulais pas avoir leur avis, en fait. De toute façon, ça servait à rien, et que j'avais envie de le faire, et qu'ils auraient bien pu dire ce qu'ils voulaient, de toute façon, ça aurait rien changé.
Et donc, finalement, comment est-ce qu'ils ont réagi? Quand tu leur as annoncé ?
Ils savaient que je préparais quelque chose, mais je leur avais pas dit quoi. Et ils se sont lancés dans des trucs. Ils ont imaginé, mais tout et n'importe quoi. Et un coup, il y a même un membre de ma famille qui m'a dit « Mais tu vas faire une carrière dans le porno ? Qu'est-ce que tu vas faire ?» Et tout. Mais non. Non, non, non.
Oh, mon Dieu.
Je fais pas quelque chose de fou, quoi. Vous inquiétez pas, il y a rien de... Et quand je leur ai dit que c'était un CAP pâtisserie, ils m'ont dit « Oh, mais ouais, mais en fait, mais ouais, ça nous surprend pas, parce que t'as toujours bien aimé ça, et puis ouais, bah ça te correspond bien, en fait. Ouais, effectivement, ouais, c'est bien. » Donc, ils étaient un peu déçus, enfin, pas déçus, je sais pas trop, mais ça leur a fait un peu bizarre, en tout cas, que je reprenne pas un travail comme ce que j'avais avant. Et c'est vrai qu'ils avaient parfois un peu de mal à comprendre que bah, j'allais pas travailler, j'ai quand même fait un apprentissage, hein, mais 8 heures par jour à faire de la pâtisserie, c'est du travail, je vous confirme.
Même si t'aimes ça.
Voilà, mais pour eux, c'était pas du travail, parce que j'étais pas payée comme... Enfin, j'étais pas payée, parce que c'était pas un vrai travail, en fait, pour eux. Pour eux, c'était plus un loisir, quoi.
D'accord.
Que j'ai fait pendant un an, parce que c'était lubie, et que voilà, mais c'était pas un travail. Donc ça passait mal pour certaines personnes, ouais.
Mais ce CAP pâtisserie, c'est quelque chose que tu avais déjà en tête, en fait, il me semble, quand tu avais 16 ans, non, c'est ça ?
J'ai toujours aimé, mais comme j'avais des bonnes notes à l'école, et que malheureusement les métiers manuels sont assez mal représentés.
Exactement,
Et
ouais.
ben on m'avait dit non, t'as des bonnes notes, continue les études parce que plus t'as d'études, plus t'as de diplômes, et meilleur sera ton métier ainsi que ton salaire et voilà.
Plus tu gagneras d'argent. Voilà.
Ouais, l'argent, je pense, est un nœud. Il a des bons côtés et il en a d'autres un peu plus compliqués. Mais bon, c'est bien aussi de s'en rendre compte et puis d'apprendre un petit peu ce que ça nous apporte ou pas.
Tout à fait. Et donc tu fais ça de septembre pardon à juin, c'est ça, de cette année?
Ouais.
Et donc comment ça s'est passé? T'as bien aimé?
Eh ben c'était extraordinaire. C'était, mais vraiment, du début à la fin, c'était génial. J'ai trouvé des collègues, parce qu'on était une classe que d'adultes.
D'accord.
On était dans un établissement où il y avait des jeunes hein, qui passaient leur CAP, leur BP, tout ça. Mais nous, on avait une classe spéciale d'adultes. Donc déjà, retourner à l'école, c'était génial, quoi. C'était trop drôle de voir les petites jeunes de 15 ans qui étaient... Enfin, voilà. En plus, moi, j'ai toujours aimé l'école. J'ai toujours aimé aller en cours. Et moi, je me suis régalée, quoi. Donc j'avais des collègues vraiment qui étaient super. J'avais des profs avec qui on rigolait bien et qui nous apprenaient en même temps tout ce qu'il y avait besoin de savoir en termes techniques sur la pâtisserie. Et puis j'ai fait en parallèle un apprentissage avec un pâtissier de la ville où je suis. Et donc lui, il avait mon âge et il était tout seul dans sa pâtisserie qui venait de monter. Et donc on bossait les deux dans 7 mètres carrés. Enfin, c'était...
Vaut mieux bien s'entendre.
Voilà, et là, mais c'était juste génial, quoi. Du coup, maintenant, je dis que c'est mon frère jumeau, tellement on est proches, quoi. C'est vraiment... J'ai trouvé quelqu'un qui, à la fois, m'a formé sur le plan de la pâtisserie pure, quoi. Donc, les gestes, les techniques, tout ça, mais qu'est-ce qu'on a rigolé, quoi. Franchement, il y avait une ambiance vraiment géniale, et en plus... cette année-là où j'ai fait mon apprentissage chez lui, il a participé au meilleur ouvrier de France en pâtisserie à Issy-Saint-Jean.
Oh, super.
Donc, il m'a emmené avec lui. Donc, ils n'ont pas le droit d'avoir un commis ou une personne qui les aide, mais je suis venue avec lui pour déménager le camion avec ses affaires, pour l'aider à faire ses pesées.
Pour observer, en fait, aussi.
Voilà, et puis pour voir le résultat. Et il y avait 50 des meilleurs pâtissiers de France à l'heure actuelle, et c'était juste... C'était génial, quoi, qui m'emmène là-bas et tout. Enfin, franchement, cette année d'apprentissage de pâtisserie, c'était top, quoi. Et puis, donc, là, ça y est, je viens d'avoir les résultats, j'ai eu mon CAP, ouais.
Trop bien.
Donc voilà, c'était génial.
Et du coup, ton maître, c'est ton maître de stage ou comment on appelle ça?
On peut dire ça.
Et du coup, lui, il t'a proposé en fait de rester avec lui et de travailler à ses côtés, mais tu as refusé. Alors pourquoi?
Oui, c'est vrai. J'ai refusé parce qu'en fait, je ne pouvais pas faire autrement, étant donné que j'ai obtenu, après 2 ans d'attente, le Saint Graal, en fait, on peut dire, c'est-à-dire le visa vacances-travail pour le Canada. Voilà, je l'ai eu à quelques jours de Noël, j'étais comme une dingue. Donc voilà, il faut que je parte, je n'ai pas le choix, je ne peux pas refuser un PVT pour le Canada. Et donc, dans maintenant 10 jours à peu près, je m'envole pour le Canada.
Super. Et comment est-ce que tu imagines donc ce nouveau voyage? Est-ce qu'on peut dire ça comme ça? Qu'est-ce que tu vas faire là-bas?
Tout le monde me dit, mais qu'est-ce que tu vas faire? Mais en fait, c'est que moi-même, je ne sais pas ce que je vais faire. Donc...
Mais ça change de ton premier voyage en Nouvelle-Zélande où tu avais tout organisé.
Voilà. Alors là j'ai décidé de laisser libre cours à la vie pour me guider.
Ouais.
Là pour le coup, j'ai rien organisé. Donc je pars dans 10 jours. Là, j'ai mon vol quand même parce que faut pas abuser, mais
c'est ça.
J'ai l'assurance que je viens de contracter hier. J'ai fait mon profil sur Woofing aussi hier, donc pareil pour faire un peu de Woofing au Canada, et j'ai 4 nuits en auberge de jeunesse. En arrivant. Voilà, pour l'instant, c'est tout.
D'accord. T'arrives à Montréal, c'est ça?
J'arrive, non, j'arrive à Halifax, dans l'Est, parce que je voudrais visiter l'Est, en fait, pendant qu'il fait pas trop trop froid, pour ensuite me réfugier à Vancouver pendant l'hiver.
D'accord.
Mais en fait, je sais pas tellement ce que je vais faire, ni en termes de travail, ni en termes de lieu géographique, ni si je vais acheter une voiture ou pas. Enfin bref, je sais pas.
Et la pâtisserie dans tout ça?
Et la pâtisserie dans tout ça, si j'ai des opportunités de travailler dans le domaine de la pâtisserie là-bas, pourquoi pas? Sinon, c'est pas grave. Moi, je cherche avant tout, en fait, des personnes et des endroits où il y a une bonne ambiance et où je me sente bien. Donc, après, peu importe un peu le travail, moi, je veux vraiment ouais, bosser dans une bonne ambiance. Donc, après, si c'est pâtisserie, c'est pâtisserie. Sinon,
d'accord.
Ce sera
ouais, tu verras. Bah, c'est bien comme ça, t'es vraiment libre, en fait, et t'es ouverte aux opportunités. Tu me disais, en parallèle de ça, t'as plein de petites activités, des passions. Donc, tu me disais le chant, la batterie.
Ouais.
Donc, t'as un blog voyage aussi. T'as le Reiki.
Ouais.
Est-ce que c'est important pour toi d'avoir des activités donc, variées et puis de tester de nouvelles choses en même temps que tu voyages ou en parallèle?
En fait, je pense que un des trucs, quand j'ai eu ma crise là, à 25 ans, qui m'a un peu frappée, c'est que j'avais cessé d'apprendre. Ouais, j'allais plus à l'école, je faisais pas de cours, de rien du tout, et j'apprenais plus rien. Et du coup, je me suis rendu compte que, en tout cas pour moi, c'était un manque et qu'il fallait absolument que j'apprenne des nouvelles choses. Et donc, j'ai testé plein de trucs que jusque-là, je m'étais pas vraiment autorisée à faire pour diverses raisons. Donc, effectivement, je me suis inscrite à des cours de chant et j'ai adoré. Là, cette année, en plus de la pâtisserie, je faisais des cours de batterie. Donc ça,
super.
Pareil, c'est quelque chose que j'avais toujours eu envie de faire et tout. Et on m'avait toujours dit, oh mais non, la batterie, c'est pour les garçons. La batterie, c'est un truc de bourrin. Enfin, bref, tout un tas de conneries. Et du coup, cette année, là, donc, j'en ai fait. J'adore trop, quoi. Je me suis acheté une batterie électronique et je suis comme une dingue dans mon grenier. Là. Donc, ouais, j'ai fait ça. J'ai fait aussi, depuis que je suis rentrée de Nouvelle-Zélande, je me suis mis au Reiki. Donc, c'est une technique d'énergétique japonaise, voilà, pour ceux qui veulent regarder sur Internet. Et puis, en fait, je bouquine pas mal aussi. J'ai toujours aimé lire, mais là, je me suis pas mal mis au développement personnel. Attention.
D'accord.
Ça peut faire peur.
Ça m'intéresse bien aussi.
Mais ouais, c'est... Après, voilà, je dis pas que c'est la panacée et que d'un coup, d'un seul, tous vos mots vont s'envoler. Mais pour moi, en tout cas, ça me fait du bien, j'aime bien, ça m'ouvre l'esprit à des trucs auxquels j'avais jamais pensé. Et je me rends compte, en fait, que ce qu'on nous apprend à l'école, ok, c'est bien, mais qu'il n'y a pas que ça, et qu'il y a plein de trucs à apprendre, et voilà, et si on le sait pas, si on nous montre pas ces autres parties, en fait, parce qu'il n'y a pas que ça, il y a plein d'autres trucs, hein, mais si personne ne t'introduit un peu à ça, bah, au final, tu le sais pas. Et tu passes à côté de quelque
chose. Il y a plein de choses qui peuvent être réglées avec le développement personnel.
Ouais.
Et on en a aucune idée, en fait.
Et on le sait pas. Voilà. Non, mais c'est vrai, si personne t'en parle, en fait,
tu
passes vraiment à côté et c'est dommage, quoi. Bon, après, comme ils disent dans ces bouquins-là, quand l'élève est prêt, le maître apparaît. Donc, je n'en dirai pas plus.
Ah ouais. Non, mais c'est vrai que c'est une autre façon de penser et qu'on, nous autres occidentaux, j'ai envie de dire, on n'a pas du tout été formés à ça. Enfin, la spiritualité, c'est des choses on nous apprend pas du tout à l'école, voilà.
C'est vrai.
C'est le travail, c'est, voilà. C'est à la base. Mais il n'y a pas que ça qui existe, c'est intéressant. Et c'est le voyage aussi qui permet de se rendre compte de ça finalement.
Ah oui, bah, moi clairement, ouais, j'ai rencontré quelqu'un pendant le voyage qui m'a ouvert à ça et depuis ça, vraiment, ça a changé ma vie en fait. C'est incroyable de dire ça, mais une seule rencontre de quelques jours peut bouleverser vraiment tout un tas de trucs.
Alors, est-ce que c'était cette prof de yoga?
Oui, c'était une prof de yoga qui était au nord de la Nouvelle-Zélande, qui était malaisienne, enfin, malais. Elle était toute seule dans sa grande maison, et donc je suis venue faire du woofing avec elle pendant une semaine, et elle m'a... je sais pas comment dire, mais elle m'a ouvert l'esprit, quoi. Elle m'a fait lire des bouquins dont je me souviens toujours, et que je lis encore.
C'était quoi ces livres, si tu t'en souviens?
C'est spécial, hein, on est d'accord. Moi, ça m'a parlé, mais c'est pas obligé que ça parle à tout le monde.
D'accord.
C'était en anglais. C'était Louise Hay, Transformez votre vie, je crois, c'est en français.
D'accord.
Alors, on est d'accord qu'il y a des passages. J'adhère pas du tout quand elle dit qu'elle a guéri son cancer toute seule, juste en méditant ou je sais pas quoi. Bon, il y a des trucs critiquables. On est bien d'accord. Mais il y a aussi d'autres trucs voilà, qui m'ont en tout cas permis de faire un genre d'introduction au développement personnel et à la spiritualité et tout ce qui s'ensuit.
De se poser les bonnes questions, quoi.
Voilà, de se poser des questions et de se dire, bah tiens, je voudrais en savoir plus sur tel ou tel sujet, et puis de lire ensuite d'autres bouquins, et puis de parler avec d'autres gens de ça, et au final, après tu fais ton propre chemin, quoi. Mais en tout cas, c'est ce qu'il me fallait à ce moment-là, et ouais, ça a changé plein de trucs sur ma vision des choses, quoi.
D'accord.
Donc voilà.
Super. Et donc tu fais ça, tu voyages, et en parallèle aussi tu veux t'entends de te former pour être digital nomade.
Oui.
Tu peux nous en dire un petit peu plus, tu fais beaucoup de choses quand même.
Non mais je tiens à préciser, je suis pas du tout hyper active, je flémarde dans mon lit à mort. Alors voilà, comme ça vous avez une image de moi qui fait des trucs.
Mais c'est bien, ça rassure.
Mais non, je vous inquiétez pas, je regarde des séries à fond, je bouquine sur mon canapé comme une grosse larve. Non, vous inquiétez pas, c'est pas.
Ah c'est cool.
Je fais pas tout ça d'un coup. Oui, alors le digital de médecine.
Comment ça t'est venu déjà de faire ça? Parce que t'es pas du tout dans le, à la base t'es pas du tout dans ce domaine d'activité.
Ah non, je suis pas du tout là-dedans. Avec mon boulot, j'avais appris un peu à programmer, à coder, tout ça, mais j'ai horreur de ça.
D'accord.
Ouais, non, les ordis, plus j'en suis loin, mieux je m'en porte en général. Mais du coup, je me suis rendu compte que quand on voyage, il y a souvent des moments où on est dans sa chambre au final, dans l'auberge, et puis. On n'a pas grand chose à faire et voilà quoi. Bon, on peut aller discuter avec les autres et tout, mais il y a des coups.
T'as pas envie quoi.
Voilà, t'as pas envie, t'as envie d'être tout seul. Et puis je me suis dit, autant que ces moments où je m'ennuie un peu, je puisse gagner des sous avec quoi, ce serait cool.
C'est ça.
Pouvoir gagner des sous en travaillant quelques heures par jour, en choisissant son emploi du temps.
C'est le rêve.
ça m'a l'air pas mal, ouais, effectivement. Donc c'est pour ça que j'ai créé ma micro-entreprise. Là, ça y est, j'ai eu les papiers avant-hier.
Ah, super.
Ouais, alors je le fais vraiment au feeling, on va dire, pour le moment.
D'accord. T'as pas de plan précis, quoi. Tu te lances.
Ouais, j'ai pas de plan. J'ai rempli le formulaire un peu comme ça.
Est-ce que c'est compliqué déjà les démarches pour se lancer?
C'est oui et non. Faut s'y mettre un peu quand même.
D'accord.
Ouais, faut quand même avoir une idée un peu précise de ce qu'on veut faire avec. Faut ouvrir aussi un compte en banque séparé. Enfin, il y a quand même deux trois trucs à faire pour se lancer.
D'accord.
Moi, par exemple, j'ai encore là tout ce qui est comptabilité, déclaration fiscale et tout, j'ai encore pas du tout regardé. Donc, il faut vraiment que je m'y mette.
Ah ouais.
Mais c'est pas la partie que je préfère.
Ça m'intéresse aussi, mais tu vois, cette partie-là me fait très peur.
Ouais, pareil. Ça m'a fait pas mal peur, en fait, ce projet. Mais il fallait absolument que je le fasse avant de partir au Canada. Donc, je me suis un petit peu mis des coups de pied au cul.
D'accord.
Pas mal. Et donc, ça y est, je l'ai fait, c'est bien.
Super.
Donc, je me suis inscrite sur plusieurs plateformes, en fait, pour faire de la rédaction web, de la traduction aussi anglais-français. J'ai mis des photos à vendre aussi sur internet. J'ai des personnes qui m'ont contacté, qui vont faire une start-up pour des conseils de voyage et donc qui m'ont fait passer des entretiens et tout et qui m'ont recruté pour.
Ça c'est super.
Des conseils voyage.
Donc tu vas faire de la rédaction d'articles pour eux en fait, c'est ça?
Non, pas forcément. Tu sais, sur des plateformes. Sur Freelancer, bon, y en a plein, mais pour des entreprises en fait qui ont besoin de contenu pour leur site web ou pour leur blog, ça peut être sur n'importe quel thème, ça peut être sur plein de trucs. Pareil pour la traduction français-anglais, bon, c'est assez basique, hein, français-anglais, on va dire, mais bon. Je sais parler que ces langues-là, donc en attendant de parler d'autres langues. Et puis voilà, j'essaye un peu de trouver des choses qui sont dans mes compétences. Au final, je trouve que ce qui est compliqué, voilà, c'est de se dire quelles compétences j'ai et qu'est-ce qui est monétisable, quoi.
D'accord.
Après, chacun, c'est vraiment, ça dépend de chacun, et c'est ça qui est un petit peu compliqué peut-être au début pour se lancer, c'est de se dire voilà, qu'est-ce que je peux faire concrètement qui va faire que je vais gagner de l'argent avec?
Faut essayer et puis voir ce que t'aimes et ce que t'aimes pas aussi. Parce que écrire des articles, tout le monde n'aime pas ça, quoi.
Oui, mais chacun a des talents qui peuvent
C'est ça.
permettre. Faut juste trouver comment et voilà, c'est tout. C'est plus dur en fait.
D'accord, super. J'ai une dernière question pour toi. Le podcast s'appelle De vraie vie, parce que le but, c'est de montrer qu'il n'y a pas un seul chemin et qu'on n'est pas obligé de suivre ce chemin qu'on nous a indiqué, voilà, qu'il faut s'écouter. Et donc, ma question, c'est, pour toi, c'est quoi la vraie vie?
La vraie vie, je sais pas, y a pas de vrai ou de faux en fait. Tu fais ce que tu peux et puis t'avances.
Eh bien, écoute, merci beaucoup, Pauline. Et puis à bientôt, j'espère.
Ben, merci à toi.
Merci d'avoir écouté De vraie vie. Si vous avez apprécié cet épisode, n'hésitez pas à me le dire avec des étoiles. Vous pouvez également me suivre sur Instagram, @devraievie. À bientôt!